Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork La Radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Startup. Nouvelle semaine, nouvelle startup que l'on va découvrir ou redécouvrir. Et pour ce faire, je reçois Naïl Azouz. Bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur de Noticia et responsable commercial et marketing. Alors, Noticia a été lancée en 2021, mai 2021. Oui. Vous réinventez le ticket de caisse, parce que c'est vrai que les tickets de caisse, bah, ça fait beaucoup de papier par jour et par année. Hein. 12,5 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année.
Exactement.
On se rend pas compte comme ça, parce que c'est léger, c'est petit, mais tout le monde en a. On fait des courses plusieurs fois par jour. C'est 150 000 tonnes de papier.
De CO2.
De CO2.
Ouais. De CO2 émis par le mailing.
D'accord.
Le ticket de caisse par mail. Oui, en effet, ça a l'air d'être un petit ticket de papier, mais à terme, c'est vraiment une grande source de pollution, à tel point qu'il y a la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, qui va interdire son impression systématique à partir du 1er janvier prochain. Donc oui, c'est un sujet.
Ouais. Oui, parce que maintenant, dans quelques enseignes, ils nous proposent ou pas les tickets de caisse
Les enseignes sont un peu forcées de se mettre en conformité par rapport à cette loi. Ouais. Donc elles proposent différents types de solutions, donc soit la non-impression systématique, tout simplement demander au consommateur s'il souhaite ou s'il ne souhaite pas récupérer son ticket.
Oui, mais alors ça c'est problématique, parce que moi l'autre fois j'ai dû rapporter un produit, j'avais plus le ticket de caisse, du coup voilà, j'ai pas pu le rapporter.
Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Et la deuxième alternative qu'ils proposent en général, c'est de vous demander votre adresse mail ou votre numéro de téléphone pour vous fournir un ticket dématérialisé que vous allez recevoir sur une boîte mail ou par SMS.
Oui, ça alors, avec les partages de données, c'est vrai qu'on est on est un peu plus frileux. En tout cas, pour ma part, c'est pareil, j'ai pas envie de donner, alors encore moins mon numéro de téléphone, mais adresse mail, ou sinon on en donne une qu'on consulte jamais. Mais du coup, voilà. Alors, en quoi consiste du coup le concept Noticia ?
Alors nous, ce qu'on propose, c'est de la dématérialisation des tickets de caisse, mais sans friction pour le consommateur, plus fluide pour le commerçant et surtout plus écologique que ce qui existe aujourd'hui, donc que le ticket papier et que le ticket par mail. Donc nous, le processus, il est assez simple. On positionne un QR code au niveau de la caisse.
D'accord.
Donc il y a différents supports qui sont possibles. Hein. On peut l'afficher très bien sur un support dynamique comme un afficheur client ou sur une borne, ou bien de manière physique. Donc c'est un QR code sous plexiglas qu'on pose au niveau de la caisse.
Comme une étiquette ou un...
Exactement. J'en avais pris un, bon, je l'ai laissé là-bas. Mais et du coup, ce qui se passe, c'est que le client, tout simplement, une fois qu'il a effectué ses achats, est payé, et quel que soit le moyen de paiement, chèque, carte bleue, espèce, il a juste à scanner le QR code s'il désire récupérer son ticket dématérialisé. Le ticket est délivré directement sur le navigateur internet.
D'accord.
Donc ça nécessite pas de téléchargement d'application, de création de compte de fidélité, de récolte d'adresse mail, ni de fournir un numéro de téléphone. C'est vraiment du sans friction pour le consommateur.
Et après, on fait quoi ? On le screen ?
Pas forcément. La web app, ça s'appelle une web app. En fait, c'est sur un navigateur web, mais ça nécessite pas de téléchargement.
C'est une application web. C'est comme quand on regarde un menu au restaurant, au final.
Exactement, ouais. C'est exactement quand vous consultez un menu au restaurant, ça s'ouvre immédiatement sans que vous ayez besoin de télécharger quelque chose.
Ouais.
Là, c'est pareil pour le ticket dématérialisé. Vous scannez le QR code et vous avez votre ticket dématérialisé. Et donc, pour le conserver, il y a deux façons. Soit vous pouvez le télécharger et vous l'envoyer sur d'autres espaces, donc WhatsApp, etc.
Ou on le conserve dans un fichier sur l'iPhone, par exemple.
Ouais, mais c'est pas ce que je recommande, parce que ça va vous prendre de la place dans votre téléphone. Soit on a une techno dans la web app d'identification passive, je veux dire. En fait, la première fois que vous scannez un QR code, on va associer un token, un espèce d'identifiant à votre téléphone. Donc à chaque fois, par la suite, où vous allez scanner un nouveau QR code, tous vos tickets vont être dans un seul et même endroit,
D'accord.
dans votre navigateur internet, sans ouvrir à chaque fois un nouvel onglet. Ça s'ouvrira sur le même onglet, vous allez avoir la liste de tous vos tickets directement sur le navigateur internet. Et vous pouvez les consulter quand vous le souhaitez.
Donc c'est-à-dire que si j'ai déjà utilisé cette manière de faire plusieurs fois, quand je rescanne, la prochaine fois que je rescanne le QR code, que je le scanne, j'ai tous mes anciens tickets vont s'afficher.
Qui vont s'afficher de la même manière que celui que vous venez de scanner.
D'accord. Alors après, il ne faut pas perdre son téléphone en revanche.
C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on laisse quand même l'opportunité aux consommateurs, aux clients, de s'inscrire, tout simplement, pour sécuriser tous ces tickets de caisse et pouvoir les retrouver même sur d'autres supports à la maison, l'ordinateur ou la tablette.
D'accord. Donc, ça a été lancé en mai 2021.
Ouais.
Depuis, alors on est en septembre 2022. Quel chemin avez-vous parcouru avec Noticia?
Pas mal de chemin, hein. Pas mal de chemin a été parcouru. Déjà, on a développé tout le produit, d'accord, qui live aujourd'hui et qu'on commercialise aujourd'hui. Donc notre système de dématérialisation, qui a été assez complexe à mettre en place pour qu'il soit sans friction, écologique et remplir tous les critères qu'on souhaitait remplir, hein, pour avoir un bon système de dématérialisation. Développer l'application web sur laquelle vous allez pouvoir retrouver tous vos tickets. Et en parallèle, on a développé aussi une application mobile qui n'est pas live pour le moment encore. On attend d'être dans suffisamment d'enseignes pour que ce soit pertinent de lancer cette application mobile qui va aller encore plus loin dans l'expérience de démat des tickets de caisse, catégorisation des dépenses, offres adaptées à votre consommation. Il y a beaucoup de choses à venir.
Aujourd'hui, est-ce que c'est facile de trouver des clients justement ou c'est compliqué? J'imagine connaître la réponse.
Ouais. Dans l'entrepreneuriat, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de facile. Donc non, je vais pas vous mentir, c'est pas facile de trouver des clients, ça passe par des centaines de tentatives de prise de contact par différents canaux, LinkedIn, mail, téléphone parfois, ça peut paraître un peu intrusif d'appeler un prospect au téléphone, mais on a parfois pas le choix, parce qu'en général, quand on évoque le ticket dématérialisé, dans l'esprit de nos prospects et des gens en général, immédiatement on est associé au mailing. Ils pensent qu'on fait du mailing et dans la grande majorité des cas, c'est un sujet qui est traité chez les grandes enseignes, mais aussi chez les petits commerçants. Donc il faut pousser l'interaction un peu plus loin et parvenir à faire comprendre qu'on fait autre chose de nouveau. Enfin, je nous vois vraiment comme le ticket de caisse dématérialisé 2.0. La nouvelle génération de tickets de caisse dématérialisé, je pense, passera par des solutions comme Noticia via un simple scan de QR code sans friction, écologique.
C'est vrai que ouais, c'est très pratique, hein. Et bon, là vous arrivez, j'ai envie de dire, au bon moment, ouais, parce que tout le monde s'y met.
On arrive au bon moment, on a beaucoup de chance parce que nous, initialement, on s'est lancé sur ce projet avant même que la loi anti-gaspillage, économie circulaire voit le jour et interdise l'impression systématique des tickets de caisse. C'était déjà quelque chose qui nous pesait personnellement d'avoir besoin de récupérer 15 cm de papier lorsqu'on passe au supermarché ou devoir fournir une adresse mail pour récupérer son ticket. Donc on avait ce constat-là qui nous dérangeait beaucoup, hein, mon associé et moi. Et derrière, oui, on a énormément de chance que la loi anti-gaspillage vienne nous donner un coup de pouce parce qu'aujourd'hui, tout le monde tend un peu l'oreille. Donc nos prospects, que ce soit dans le retail ou les petits commerçants, tend l'oreille, cherche une alternative, cherche une solution pour dématérialiser les tickets de caisse. Et on arrive un peu comme une cerise sur le gâteau, quoi. Donc le timing est bon, oui.
Alors, vous parlez de votre associé, c'est Jordan chez Moum. Ouais. Vous aviez déjà cofondé une start-up, Mission Santé.
Alors, je ne l'avais pas cofondé avec Jordan. C'était un projet personnel que j'avais. Donc, moi, j'ai fait une prépa et après ma prépa...
Vous avez fait quelle prépa?
J'ai fait une prépa HEC. Éco-scientifique.
Okay.
Après, j'ai fait l'Institut Minitélécom. Et pendant l'Institut Minitélécom, j'avais du temps libre. Donc, j'ai décidé de monter un organisme de formation pour les praticiens de santé. Donc, c'était des formations en e-learning. On faisait un beau chiffre d'affaires, mais le projet ne me motivait plus énormément. Et j'ai trouvé beaucoup plus de challenges dans la démat des tickets de caisse, qui n'était pas une problématique évidente du tout. Et en parallèle, je rencontrais Jordan, avec qui il y a eu un super matching. Et on a commencé à collaborer ensemble, comme deux étudiants, les week-ends, les soirs, sur ce projet-là. Bon, moi, j'étais encore étudiant à l'époque, mais lui était déjà dans le circuit du travail, hein. Il était chez Deloitte, ouais.
Et donc, Mission Santé, vous l'avez fondée tout seul?
Non, j'avais deux cofondateurs marseillais.
D'accord.
Qui étaient des camarades de classe préparatoire. Et donc, qui, eux, ont poursuivi et moi, j'ai suivi un autre chemin.
D'accord. Et quand vous dites ça m'inspirait plus, ça me motivait plus, pourquoi?
À vrai dire, j'ai toujours voulu défendre un projet, travailler sur un projet qui ait de l'impact sur la société. Et c'est ce que pouvait me procurer un projet comme Noticia. Parce que vraiment, quand on arrivera à déployer notre solution chez les grandes enseignes, chez les petits commerçants, je verrai au jour le jour l'impact de mon travail sur la société, des gens pourront récupérer un ticket sans friction, sans avoir besoin de fournir une adresse mail. Il y aura plus de 12,5 milliards de tickets qui seront imprimés chaque année. Et ce sera en partie grâce à moi. Et je suis content de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice. Surtout quand on connaît les enjeux écologiques d'aujourd'hui.
L'environnement, c'est un sujet qui vous tient à cœur, du coup, j'imagine.
Vous y pensez tous les jours. C'est un sujet qui doit tenir à cœur un peu à tout le monde.
Surtout après l'été qu'on a passé, je pense que là, on n'a plus le choix. On se rend compte que.
Un petit coup de chaud. Et en fait, il n'y a pas de petits efforts. Je pense que c'est les petits gestes du quotidien qui, au final, feront la différence. Et entre récupérer un ticket de caisse papier et le jeter dans la poubelle, parce que la durée de vie moyenne d'un ticket de caisse est de quelques secondes. Donc, entre le moment où il est imprimé et le moment où il finit dans la poubelle, et scanner un QR code, c'est ces petits gestes-là qui sont des éco-gestes, j'ai envie de dire. Et qui, à terme, mis à l'échelle française, européenne, mondiale, ça fait une différence. Ça fait une différence. Et je suis content de contribuer à ça.
Ouais. Alors, la loi anti-gaspillage entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Ouais. Du coup, les tickets de caisse seront interdits. Enfin, on ne pourra plus les imprimer. C'est bien ça?
C'est un peu plus précis que ça. C'est l'impression systématique du ticket de caisse qui va être interdite.
Donc, on peut demander, c'est ça. Il faut demander.
C'est que sur demande. D'accord. Exactement. Nous, ce qu'on propose, c'est une alternative, une alternative de ticket dématérialisé qui n'est pas polluante.
Alors, aujourd'hui, quels sont les profils de vos clients?
Alors, on adresse, j'ai envie de dire, tout commerçant. À partir du moment où il délivre un ticket de caisse, c'est un potentiel client de Nautisia.
C'est vrai que tout le monde peut.
Le marché adressable est gigantesque.
Est assez vaste, oui.
Ouais, est assez vaste. Et il y a beaucoup de travail, du coup. Ouais. Mais on s'adresse aussi bien à des grandes enseignes qu'à des petits commerces physiques. À l'heure où je vous parle, j'ai. 4 commerciaux qui sillonnent Paris, Toulouse et Marseille pour aller présenter notre solution, convaincre des commerçants que c'est la bonne pour eux. Et si les commerçants sont partants tout de suite, les installer en direct. Parce qu'on a développé une solution qui est quasi plug and play. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait des installations chez des commerçants qui m'ont pris moins de 2 minutes.
Donc c'est très très rapide.
C'est très très rapide.
Donc efficace, rapide, ça a un impact sur l'environnement.
Positif. Sur l'environnement. Il y a un point qui est aussi à souligner, c'est qu'on propose une solution qui est gratuite aujourd'hui. Donc on ne veut pas en fait apparaître comme...
Gratuite pour qui ?
Pour les commerçants.
D'accord.
En fait, il y a notre offre à deux axes, d'accord ? Le premier axe, c'est la dématérialisation du ticket de caisse. Et nous, on ne voulait vraiment pas apparaître comme une double peine pour le commerçant. Déjà qu'on le force à ne plus imprimer systématiquement de ticket de caisse, c'est une contrainte qu'on lui donne. Nous, on ne voulait pas apparaître comme une deuxième contrainte de devoir en plus facturer ce service-là.
Alors, quel est votre business model ?
Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on part d'un ticket dématérialisé et on essaye de le transformer en un outil marketing puissant pour le commerçant.
D'accord.
Pour générer un peu de trafic en magasin. On a vu que les soldes n'ont pas autant porté leurs fruits pour beaucoup de commerçants que ce qu'ils pensaient, alors que le Covid est terminé. Donc, le but de ce ticket dématérialisé, qu'on transforme en un outil marketing puissant, c'est de venir générer du trafic en magasin, parfois sur les sites marchands, s'ils ont des sites marchands en parallèle, générer plus d'avis clients. Donc ce qui se passe, sous chaque ticket, le commerçant va avoir un encart publicitaire sur lequel il va pouvoir mettre en avant son enseigne, sa marque, les offres du moment, certains produits qu'il a envie de pousser à ses clients. Il va pouvoir, sous cette annonce, mettre des liens de redirection vers son site marchand, vers ses réseaux sociaux, en fait vers les supports qui lui semblent le plus pertinent pour son point de vente.
Donc en fait, vous l'accompagnez de pub, ce ticket de caisse.
Exactement. On l'accompagne de publicités qui arrivent sous le ticket, d'accord, et qui sont éditées par le commerçant lui-même.
Du coup, vous facturez la publicité qui est dessous.
Exactement.
Donc ça, vous le faites payer. Ouais.
Pour ça, on fait payer. Donc ça veut dire qu'un commerçant, aujourd'hui, s'il veut s'équiper de mon système de dématérialisation, va pouvoir l'utiliser gratuitement, qu'il fasse 1 ou 1 million de tickets par mois, ça fera aucune différence. En revanche, s'il désire se servir de ce ticket dématérialisé pour générer de l'intention d'achat, du trafic en magasin, à ce moment-là, il va devoir souscrire à une offre payante, qui est l'offre média, et qui reprend les différentes fonctionnalités dont j'ai pu parler.
Et si, par exemple, il ne veut pas faire de pub en dessous, s'il veut juste utiliser le ticket, c'est possible ?
Ouais. Il peut. Et après, ce sera notre job à nous d'aller le convaincre de la pertinence de notre offre média pour son commerce. On intègre d'autres fonctionnalités, je vous en ai donné 2 en exemple, mais on peut récolter de l'avis client. Aujourd'hui, il y a des commerces dans lesquels vous vous rendez, vous voyez un petit QR code au niveau de la caisse, c'est un QR code qui ne sert qu'à récolter l'avis client pour le commerçant. Sauf qu'en général, très peu de personnes font l'effort. Vous faites votre achat, vous quittez la boutique sans forcément laisser votre avis.
Mais on n'a pas trop le temps.
Exactement. Nous, ce qui se passe, c'est qu'au moment où vous scannez votre ticket dématérialisé, vous allez avoir une petite pop-up qui vous propose de laisser votre avis au commerçant.
D'accord.
Si l'interaction s'est bien passée, vous pouvez laisser vos 5 étoiles et ça arrange tout le monde.
Donc c'est tout en un.
C'est tout en un, c'est ça. Mmh. On se contente pas juste de dématérialiser le ticket, on essaye aussi de générer de l'intention d'achat pour les commerçants.
En tout cas, Noticia plaît, puisque vous venez de boucler une levée de fonds.
Ouais.
Ça a été compliqué ou pas ?
Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien qui est simple dans l'entrepreneuriat. Donc, ça n'a pas été simple. Mais,
parce que c'est compliqué pour les startups en ce moment, hein, de lever des fonds. Comme dit notre très cher président, l'abondance, c'est terminé. Ouais. En tout cas, les startups le ressentent, hein, puisque c'est fini, les excès de liquidité, les fonds prêtent moins et prêtent plus difficilement. Il faut se justifier, il faut prouver. Est-ce que vous l'avez ressenti ? Est-ce que ça a été le cas pour vous ?
Écoutez, ça a été un peu le cas pour nous, mais ce qui se passe, on est vraiment dans un environnement où il y a l'inflation, il y a plein de choses qui vont pas au niveau économique, et donc les gens sont moins prêts à prendre des risques, donc que ce soit des business angels ou des fonds d'investissement. Donc oui, en général, faut prouver. On peut le faire de différentes manières, soit via de l'attraction commerciale. Nous, je vais pas vous mentir, on n'avait pas énormément de traction commerciale quand on a levé, parce qu'on devait tout simplement développer le produit avant de pouvoir obtenir de la traction. Mais il y a d'autres leviers, comme la pertinence de votre projet, comme l'impact de votre projet, comme le timing.
Bah là, on en revient au timing.
Des éléments qui m'ont beaucoup aidé.
Bien sûr.
Parce que j'avais une solution à impact écologique positif qui était dans l'air du temps, parce qu'il y a la loi AGEC qui est passée et qui impose aux commerçants de ne plus imprimer systématiquement le ticket de caisse. On a une équipe fondatrice qui était très complémentaire. Et à partir de là, ça nous a permis de lever des fonds. Mais c'était un travail de longue haleine. On a entretenu, si c'est un petit conseil que je peux donner, on a entretenu de longues relations avec nos investisseurs avant qu'ils mettent un ticket. C'est-à-dire il y a eu une première rencontre. À partir de là, on les tenait au courant constamment, de nos avancées, de nos évolutions. Même si on n'était que deux, puis trois, puis quatre dans la boîte. Et on prouvait qu'on était capable de mener à bien ce projet. Et à terme, ça s'est fait tout naturellement, l'investissement. Quand on a eu besoin de fonds, on a su retrouver les investisseurs qu'on avait rencontrés au début et qui ont suivi un peu de loin au départ, puis de plus en plus près notre projet.
Alors, qui sont-ils, ces investisseurs ?
Alors, on a trois investisseurs. On a Daniel Bernard, l'ex-PDG de Carrefour Monde. Donc, il nous aide beaucoup en parallèle d'un investissement financier. Il nous aide beaucoup de par son réseau, de par son expertise sur les sujets retail, parce qu'il a quand même été président de Carrefour Monde de 1995 à 2005. Il était président de Kingfisher, qui réunit les groupes, les enseignes Castorama, Brico Dépôt. Donc, un gros soutien de la part de Monsieur Bernard. On a également Mehdi Wass, qui est le président, cofondateur, directeur général de Talent. C'est un grand cabinet de conseil qui a son siège à Paris. Ils sont un peu plus de 6000 collaborateurs, il me semble. Et donc, ils nous accompagnent sur différents sujets, à la fois sur des sujets commerciaux. Ils nous ont aidés à mettre en place notre pricing, notre façon de commercialiser notre solution. Et de manière technique, ils ont toujours été un soutien pour nous également. Ça a été compliqué de mettre en place notre solution. Et quand on avait des questions, des interrogations, on pouvait se tourner vers Talent et vers Mehdi pour nous aider sur ces sujets-là.
En quoi ça a été compliqué de mettre en place votre solution ? En termes techniques ?
Ouais, au niveau technique, ça a été très compliqué. En fait, il y a plusieurs étapes qui ont été compliquées. On a pivoté un nombre de fois incalculable. Parce qu'on partait d'une problématique qui est on doit dématérialiser le ticket de caisse. Nous, on s'était fixé trois critères pour qu'un ticket de caisse dématérialisé, un système de dématérialisation, soit le bon. Il fallait que ce soit fluide, que ça ne vienne pas ralentir le passage en caisse, que ce soit fluide que récupérer un bout de papier en caisse. Il fallait que ce soit non intrusif, donc pour le consommateur, on ne voulait pas qu'il ait forcément besoin de fournir une adresse mail, un numéro de téléphone, créer un compte. On trouvait que c'était une expérience qui était mauvaise, tout simplement, un ticket dématérialisé. Et enfin, il fallait que ce soit écologique. Donc, notre but n'est pas de déplacer le problème, notre but est de résoudre le problème. Donc, il fallait absolument que notre solution soit plus écologique que ce qui existe aujourd'hui, le papier ou le ticket par mail. Donc, à partir de ces constats, on part d'une feuille blanche. Hein. Donc, il faut trouver une solution, qui nous convienne déjà, puis qui soit viable. Parce qu'on part d'une idée, on part de « Ah, et si on dématérialisait le ticket de caisse avec un scan de QR code ?» ouais, d'accord, c'est une bonne idée, mais il faut prouver que c'est faisable. Donc à partir de là, il y a des briques qui viennent se construire et petit à petit, on se rapproche de la solution. Puis parfois, on se rend compte que qu'on se mentait, que ça va pas, qu'il faut pivoter. Je vais vous donner une anecdote. Nous, on a passé 3-4 mois à développer une solution de dématérialisation de tickets de caisse qui passait par un sans-contact. Donc on a pensé, puis développé un boîtier physique qu'on comptait venir brancher à la caisse, poser au niveau du comptoir de caisse. Et à ce moment-là, si le client souhaitait son ticket dématérialisé, il faisait un sans-contact sur le boîtier et récupérait son ticket de caisse directement sur son navigateur internet, comme ça se fait par QR code. Sauf que notre credo, c'est quand même la dématérialisation, d'accord ? Et après avoir confronté ce projet-là à différents potentiels prospects, des enseignes, des petits commerçants, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas venir proposer une solution de dématérialisation
Avec un boîtier.
Ouais, en venant rajouter du matériel au niveau de la caisse.
Puis il faut le construire, ce matériel aussi.
Il faut le construire, il faut usiner le boîtier.
Il y a un impact carbone du coup qui
exactement.
Se rajoute.
C'était le fait de faire un hardware nous semblait pas juste, sauf que ça, on s'en est rendu compte, alors que ça faisait déjà 4 mois, 3-4 mois qu'on travaillait dessus. Il était prêt, quoi. On s'est dit, bon, on va.
En fait, ça va pas.
Et en fait, à un moment donné, on se regarde droit dans les yeux, on se dit, on va pas venir changer l'infrastructure de la caisse des grandes enseignes.
Enfin, c'est... Et ça, comment vous avez ouvert les yeux là-dessus ?
C'est plus qu'ouvrir les yeux, c'est arrêter de se voiler la face, en fait.
Mais
en fait, on a tendance,
en fait
quand on fait des efforts, on a tendance à pas vouloir faire demi-tour, parce qu'on se dit genre, j'ai trop donné pour en arriver là. On va le faire marcher. Sauf qu'à un moment donné, le marché il vous met une claque, il vous dit nous on n'en veut pas de ton produit. Donc et là, en général, t'as pas d'autre choix que de pivoter et que de changer de solution pour avoir quelque chose qui convient mieux. Et donc nous,
vous avez eu le courage. Il faut du courage pour pivoter.
Ah ouais. Il y a plein de fois où on s'est regardé droit dans les yeux, on s'est dit bon, on continue, on arrête, on fait quoi. Enfin, ça fait 3 mois qu'on bosse dessus. Au final, toi et moi, on est d'accord sur le fait que ce soit pas la solution la plus pertinente. Donc à partir de là, ça demande. En fait, l'entrepreneuriat, ça demande de la résilience. Il faut savoir. Prendre des portes, échouer et pas perdre espoir. Et c'est ce qu'on a su faire jusqu'ici. Je pense qu'on aura encore des claques, des portes et des échecs. Mais au fur et à mesure, on s'endurcit. Au début, ça fait mal, puis au final, on commence à s'habituer un peu.
Est-ce que tout le monde est capable d'être entrepreneur, selon vous ? Est-ce que c'est donné à tout le monde, cette résilience-là ?
Honnêtement, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre à cette question. Parce que moi, j'ai tendance à pousser tous les gens que je côtoie à entreprendre, à monter des projets, à se lancer. Mais je me rends compte qu'il n'y en a qu'une infime partie qui se lance réellement et qui trouve le courage de lancer un projet. Donc, je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde. Je pense que dans le monde, tout le monde a sa place quelque part. Et je pense qu'il faut un peu d'entrepreneurs, un peu de personnes plus carriéristes, un peu de personnes plus bénévoles. Enfin, il faut un peu de tout. Et donc là, en direct, si je devais vous répondre, je dirais que non, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça demande des qualités particulières.
Et encore plus ceux qui réussissent. Hein, parce que là, vous l'avez très clairement dit, il faut du courage pour se lancer, pour trouver l'idée. Et je pense encore plus de courage pour avoir l'agilité de pivoter, comme vous dites. Parce qu'on en voit des entrepreneurs qui ont un super projet, mais voilà, comme vous l'avez si bien dit, ils se prennent une claque par le marché et qui n'ont pas le courage de pivoter. Et ça, vraiment, se remettre en question à ce point quand on a une super idée, je trouve en tout cas que c'est admirable.
Il ne faut absolument pas être borné. Hein. Il faut être ouvert d'esprit, avoir les yeux, les oreilles grandes ouvertes. Les avis sont bons à prendre. Après, à vous de le traiter d'une manière ou d'une autre. Hein. À vous de... Mais écoutez tout. Écoutez tout. Et après, faites votre choix.
Le tri, peut-être.
Le tri, dans les avis. Tout n'est pas bon à prendre. Il y a toujours des gens... Bon, moi, j'en ai pas côtoyé, mais j'ai entendu des gens qui vont un peu vous pousser à abandonner, à ne pas le faire, vous dire que c'est une bonne idée.
Est-ce qu'il y a des jaloux aussi, peut-être ?
Des jaloux, personnellement, j'en ai pas croisé. Où on m'a jamais fait de réflexion particulière. Après, la jalousie, ça peut être quelque chose de caché. Hein. Donc,
bien sûr.
Je l'ai pas forcément vu, mais non, j'ai la chance d'être bien entouré. J'ai la chance d'être bien entouré et d'avoir des personnes bienveillantes autour de moi, mes investisseurs, mes collaborateurs. Je travaille qu'avec des gens avec qui j'ai confiance. C'est important de savoir choisir les gens qui vous accompagnent. Hein. Honnêtement, cofonder un projet avec quelqu'un, c'est comme se marier avec quelqu'un. C'est-à-dire, je vois plus mon cofondateur que ma petite amie ou que ma mère ou que mon frère. Je le vois au quotidien. Donc, il faut savoir choisir les gens qui vont vous accompagner. Parce que c'est... En fait, ça va être tellement prenant, l'entrepreneuriat. Ça va être tellement prenant.
Même le travail en général. Hein, quand on voit les salariés, ouais. ils le voient beaucoup plus général. Leurs collègues que leur famille.
Mais l'entrepreneuriat, c'est encore plus exacerbé. On se lève le matin, on pense à ça, on se couche le soir. Je veux dire, quand on est salarié, il y a un moment donné dans la journée où, où on peut raccrocher, passer à autre chose. Bah, c'est...
L'entrepreneuriat, c'est 24-24.
Bah, pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est 24-24. Ouais.
Après, j'ai vu un grand nombre de fondateurs, hein, d'entrepreneurs qui sont venus sur ce plateau. Il n'y en a aucun qui m'a dit « je décroche ». C'était 24-24, 7 sur 7. Ça prouve, en fait, la passion et que vous avez fait le bon choix. Mais en tout cas...
Ouais, faut être déterminé. Hein.
Ouais.
Faut être déterminé, mais pas obstiné. Obstiné, c'est faire sans arrêt la même chose en espérant un résultat différent. Déterminé, c'est... passer par toutes les portes possibles, des portes différentes, pour arriver à son objectif. Mmh. Donc, il ne faut pas être obstiné, il faut être quelqu'un de déterminé, de résilient, de courageux, et surtout avoir confiance en soi, dans sa vision. C'est important, je pense. Pour convaincre les autres. Et là, si vous-même, vous n'avez pas confiance dans votre vision, comment vous allez convaincre quelqu'un d'avoir confiance, d'investir dans votre projet, que ce soit du temps ou de l'argent? Enfin,
oui, faut moi,
tous mes collaborateurs avaient un job avant. Je les ai reçus.
Vous les avez débauchés.
Ouais. Je les ai reçus. Je leur ai parlé de Noticia. Je leur ai parlé de notre vision. Et il y en a, le jour même, ils posaient leur DM pour nous rejoindre, quoi. Donc, ça prouve qu'on a confiance dans notre vision, dans notre projet. Et voilà, après, il faut savoir exécuter, démontrer pour pas décevoir...
Les collaborateurs.
C'est des responsabilités. Hein.
Bien sûr. Il y a combien de collaborateurs aujourd'hui?
Là, on est 10 aujourd'hui.
D'accord.
Équipe, c'est mélangé. Il y a de l'équipe, il y a une équipe technique et on a 4 commerciaux.
Commerciaux, oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Et juste le troisième investisseur, vous avez cité les deux.
Le troisième investisseur important, c'est la BPI France. Voilà.
Qui pas nous... un petit investisseur.
Non, qui nous fait confiance. Et qui nous a aidés depuis le tout début, hein, à travers des subventions, des aides à la faisabilité, et qui aujourd'hui réitère sa preuve de confiance dans notre projet en investissant un peu plus. Hein, c'est sous forme de prêt, mais c'est une belle preuve de confiance quand on est une start-up. C'est quelque chose qui donne du courage.
C'est vrai qu'on est fiers. On a reçu Nicolas Dufour sur notre plateau, justement. Et c'est vrai que toutes ces startups, là, votre projet, c'est vrai que c'est des projets qui les intéressent très fortement, hein, puisque c'est l'avenir.
On est de plus en plus sollicités par tout type d'entités, hein, par des fonds... des business angels, par des entreprises, des grandes sociétés, dans le retail média par exemple, qui nous contactent pour nous demander un peu ce qu'on fait, parce qu'ils ont vite compris qu'on était un nouveau canal de communication. Donc le jour où la majorité des tickets seront dématérialisés par une solution comme Noticia, tout ce qui se passe sous le ticket, c'est un nouveau canal de communication avec le client final.
Vos projets, pour terminer, vos projets à moyen, un peu plus long terme, du coup là, il y a une levée de fonds, qu'est-ce que ça va vous permettre, cette levée de fonds?
D'accélérer commercialement. Là, on avance sur deux axes, les petites enseignes, petits commerçants, qui sont aussi concernés par la loi, mais aussi les grandes enseignes, grands comptes, tout secteur confondu, restauration rapide, grande distribution alimentaire, textile, grands magasins spécialisés, high-tech et autres. Et donc, on avance sur ces deux axes. On est en pourparlers avec une vingtaine de grandes enseignes aujourd'hui, à des stades plus ou moins avancés. Il y en a avec qui c'est des discussions. Il y en a avec qui on avance sur des phases de POC. Et il y en a avec qui on prépare les phases de POC. Donc, on n'est pas encore en production dans une grande enseigne, mais ça ne saurait tarder, je pense. Et sur les petits commerçants, on en installe quotidiennement. Donc ça passe par une prospection physique. Hein.
C'est des gens en ville, la plupart?
Ouais, des gens en ville. On adresse tout type de commerçants. Hein. On n'a pas vraiment de frontières, de limites à ce niveau-là. Là, actuellement, on travaille beaucoup sur Paris. Donc on adresse beaucoup les commerçants parisiens. Très simple, en rendant la boutique, on leur présente notre système de dématérialisation, on leur explique que c'est gratuit, que ça va potentiellement les aider à booster leur activité, avec l'aspect média juste en dessous, mais que c'est pas, ils sont pas obligés de souscrire à cette offre pour l'instant, ni plus tard s'ils souhaitent pas. Et voilà, on avance sur ces deux axes. Donc là, à moyen terme, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de déployer notre solution dans un maximum de commerces de toute taille, de tout secteur.
D'accord. Eh bien, merci infiniment, Nate, d'être venu nous parler et nous présenter Nautisia, qui a de beaux jours devant elle.
J'espère, ouais.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Objectif Startup.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.